Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui s'amuse avec les films à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Aujourd'hui, on a un copain qui vient nous voir, qui vient nous rendre visite. Salut Julien.
Salut.
On vient en mode grands enfants pour aller s'amuser, pour aller jouer avec Toy Story 4, quatrième volet de la licence Pixar qui a lancé Pixar, on peut le dire. Hein. C'est un peu son premier gros succès, Toy Story.
Je crois que c'est le premier succès indépendant puisque Pixar, à la base, c'était juste une sous-faction de Disney qui était là pour faire les animations numériques. Donc ceux qui faisaient les animations d'Aladdin, du Roi Lion. Et après, ils se sont indépendantisé entre grands guillemets tout en restant sous la tutelle de Disney, je pense, pour le financement, mais pour proposer leur métrage à eux avec leurs équipes et leurs auteurs.
Quatrième volet de la franchise, est-ce que c'est pas un peu beaucoup quand même?
Ça commence à chiffrer quand même.
C'est marrant que tu le précises parce que logiquement ils ont annoncé, alors est-ce qu'ils vont s'y tenir, on sait pas, on verra dans quelques années. Ils ont annoncé que normalement les Indestructibles 2 et Toy Story 4 étaient leur dernière suite, qu'ils ne feraient plus jamais de suite et qu'ils ne proposeraient, contrairement à Disney qui justement s'enferme dans les suites et les remakes, qu'ils ne feraient que des propositions originales.
Ouais, d'autant plus que le 3 était censé conclure Toy Story, non?
Ouais. Bah, le 3, voilà, il est sorti il y a 9 ans, ça date. Et oui, il concluait puisque j'imagine que depuis le temps, tout le monde a vu Toy Story 3, ça concluait sur, au final, même si ça tourne autour des jouets, ça tourne autour de Andy et ses jouets, même si Andy reste très annexe, mais les jouets, ils sont très attachés. Ça finit par Andy qui part à l'université et qui donne ses jouets à une petite fille. Donc voilà, c'était le passage de flambeau, un nouvel enfant va jouer avec eux, les jouets ne sont pas abandonnés, mais concrètement, l'histoire est terminée puisqu'on n'a plus grand-chose à raconter autour d'eux. Donc ouais, un quatrième épisode, pourquoi pas. Ça a été écrit par John Lasseter et visiblement les mecs ont envie de le faire et ils ont dit clairement on le fait pour de bonnes raisons, vous inquiétez pas et ça. Mais j'avoue que je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir raconter dessus. Donc je suis un peu perplexe là-dessus.
Comme Thierry, je voyais le 3 comme une conclusion vraiment parfaite. Le 3 est de loin, je pense, mon Toy Story préféré. Donc je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec l'épisode 4 et j'espère que ce sera pas l'épisode de trop, effectivement, parce que le 3 était une conclusion parfaite.
À la réalisation, un nouveau, entre guillemets, Josh Cooley, qui avait été scénariste sur Vice Versa et qui avait réalisé et qui était aussi responsable des storyboards sur Cars 2.
Bon, oui. Une fois de plus, Pixar, ça reste très familial. Hein. Généralement, quand il y en a un qui a la réal, l'autre est au scénario. Enfin, ils bossent vraiment tous, en fait, au final, toute cette espèce de petite poignée d'auteurs. Donc, tu penses à Andrew Stanton, Pete Docter. Bon, il y avait Lasseter, plus maintenant. Donc, Josh Cooley et Leon Critch qui avaient fait Coco. Je veux dire, voilà, quand il y en a un qui réalise, les autres scénarisent, les autres font les storyboards. Ils bossent vraiment tous ensemble, quoi qu'il arrive, sur les métrages Pixar. Hein. C'est vraiment une grosse famille, quoi.
Ça reste en famille, donc. Donc, bon signe, finalement, ça reste entre de bonnes mains.
C'est plus limite que de dire que c'est un film de Josh Cooley. C'est plus un film de la team Pixar, en fait, qui est vraiment une team complète. Je pense qu'ils sont très complémentaires, en fait. Après, je sais pas, mais...
Non, à titre personnel, Josh Cooley, la réalisation, je sais pas s'il scénarise aussi.
Non, je crois pas.
D'accord. D'accord, parce que bon, en tant que scénariste, je pense que Vice Versa est mon Pixar préféré à titre personnel et que son scénario est juste complètement dingue, donc je suis confiant.
Très bon signe. Alors, il y a des bons signes, il y a des choses un peu plus, on va dire, qui mettent un peu plus de doute. Eh bien, éclaircissons tout ça après la bande-annonce.
Qui veut partir en camping-car?
Moi! C'est vacances!
Tu veux un coup de main?
Non, ça va, je gère. Je sais que ça peut vous paraître curieux, mais nous tous là, on doit faire bien attention qu'il ne lui arrive rien.
Woody !
Là, il lui arrive quelque chose.
Buzz, faut vite récupérer Fourchette.
Bien sûr.
C'est pas possible.
C'est la panique !
On change de programme.
Jesse, Fayon, Buzz, Bo, Rex, Monsieur Bonnard.
Rex, fais attention !
Que doit-on faire ?
On va sauver une fourchette.
Est-ce que je dois m'inquiéter ?
Non, mes gars sont des vétérans, mais ils tiendront le coup.
Mais voilà, Woody !
On connaît le jouet qu'il faut pour ça.
Duke Kaboom, roi de Cascada Canadien. Oh yeah!
Il adore prendre la pause. Duke, on a besoin.
Attends, une petite dernière. Oh yeah!
On sort de Toy Story 4. Octave a fait sa photo avec Woody et la bergère, il est tout content. Alors, un nouvel ami?
Mais tu vois, quand je suis sorti de Toy Story 3, donc il y a 9 ans, j'y étais allé en mode « Putain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire un troisième? Mais pourquoi ?» Et je suis sorti de là en me disant mais je ne mettrai plus jamais en doute Pixar. C'était l'idée du siècle. Ils ont fait un truc merveilleux. Heureusement qu'ils l'ont fait. Voilà. Il y a le 4 qui arrive. Et là, je sors du quatrième et je me dis « Mais putain, les gars, mais Mais heureusement que vous l'avez fait, quoi. Enfin, il fallait le faire, ce film. C'était important, c'était beau, c'était génial. C'est super positif.
Alors, je serais pas aussi catégorique que Thierry quant à la pertinence du film. Je vais faire une différence entre la qualité du film, qui est exceptionnelle, hein, c'est un très très bon film, vous allez passer un super bon moment, mais quant à sa pertinence, qui n'atteint pas le travail d'écriture et la profondeur du propos du 3.
Je suis assez d'accord là-dessus quand même, hein, je me suis éclaté, mais en effet, on pouvait conclure sur le 3 sans aucun souci. Ça apporte un nouveau chapitre, qui est très bien aussi, mais indépendamment.
Moi, c'est bien. Moi, je me suis retenu de pleurer pendant tout le film.
Voilà. Moi, ça a été les grandes eaux à un moment. J'étais là en mode, vas-y, ils vont me regarder, ils vont me voir pleurer. Mais ne t'inquiète pas que ça y est, les grandes eaux.
Ouh, c'était émouvant. Ouais. J'ai la larme à l'œil du début à la fin. Alors, moi, j'ai pas vu le 3. Je sais pas si c'était un. Et je me souviens plus des deux premiers. Je sais pas si c'était un résumé ce qu'on voit avant le générique.
Non.
Pas du tout.
Ah non, pas du tout. Non.
L'histoire de la bergère, c'est, on n'est pas au courant.
Non. Non, ils ont rajouté juste un pan là de scénario pour expliquer que la bergère partait vers de nouveaux horizons, mais c'est tout. Puisqu'à la base, elle reste dans la maison, je crois, c'est ça.
Je me souviens même plus si elle est présente ou pas dans le 3, en fait. A priori, non, du coup. Elle doit plus être là.
Ah bah ouais, non, oui. Elle y est pas. Mais vu qu'en fait, à la base, la bergère est un jouet de Molly, donc la petite sœur de Andy, on la voit très peu de toute façon, quoi qu'il arrive. À chaque fois, ils essayent d'aller dans la chambre d'à côté pour la voir. Elle intervient de temps en temps dans les premiers, mais c'est vrai qu'elle est pas du tout. Enfin, c'est pas l'un des personnages principaux qu'on voit tout le temps, comme ceux qui sont juste présents en arrière-plan, mais qui sont tout le temps là, comme Zigzag, comme Monsieur Patate. La bergère est beaucoup plus annexe que ça.
Beaucoup moins présent dans celui-là, d'ailleurs.
Oui, les autres sont moins présents, mais les autres sont pas toujours très présents, en fait, ça dépend. Ils sont tous utilisés à bon escient, ça tourne toujours autour de Buzz et Woody, mais après, les personnages secondaires vont être utilisés ou pas selon les épisodes. Donc là, finalement, bah, là, c'est la bergère, du coup, qui a été mise énormément en avant face à d'autres. C'est plutôt cohérent, en fait, ça.
Donc oui, alors par rapport à ce 3, alors le 3, on avait le changement, on passait à un nouvel enfant, on avait une nouveauté. Là, qu'est-ce que nous apporte ce 4, finalement? Qu'est-ce qui fait qu'il fallait le faire?
Qu'est-ce qui fait qu'ils fallait le faire? Ils avaient une bonne histoire. En fait, c'est plutôt ça, c'est qu'ils l'ont fait pour de bonnes raisons. Ils n'ont pas juste fait ça pour étirer la licence. Ils ont une super histoire qu'ils ont travaillée, ils ont pris le temps de l'écrire, ils ont pris le temps de faire des bons dialogues, ils ont pris le temps de prendre des beaux moments de vie. Et du coup, bah voilà, on replonge avec plaisir là-dedans. Là, ils vont raconter, donc pour faire le rapport à nous, ça va être le passage à l'école de la petite. Donc là, du coup, c'est marrant parce que c'est l'accès à un nouveau public aussi. C'est l'accès aux tout-petits que nous, on était quand on avait vu le premier. Sauf que c'est vrai que dans le premier, on dit on s'intéresse pas à l'école. Là, on est vraiment sur la gamine qui arrive à l'école. Donc ça va être le passage d'un enfant qui a peur, tout simplement, d'aller dans un endroit qui n'est pas familier parce qu'elle est habituée à rester dans sa maison à jouer. Donc on va parler de ça. Voilà. Et on va construire l'aventure autour de ça. Et on va parler de l'abandon. On va parler... aussi du fait que certains jouets étaient habitués à être les stars de la scène, et là finalement ils se retrouvent face à une gamine qui a pas les mêmes habitudes, qui va pas jouer au même jeu et qui du coup ne va pas avoir besoin des mêmes jouets. Donc du coup là en l'occurrence il s'agit de Woody, de toute façon c'est quand même centré sur Woody, qui va se retrouver de plus en plus abandonné, qui va se demander quelle est sa place, est-ce que vraiment c'est un jouet pertinent dans la ludothèque de Bonnie, est-ce qu'il a sa place ici, et au final quelle est sa place. Donc, on parle pas mal d'identité.
Voilà, c'était le mot que j'allais prononcer, identité. Identité, parce que alors on a évidemment le rôle de Woody, mais ça commence déjà très tôt. Déjà dès les jeux, on est dans la chambre d'une petite fille et elle ne va pas jouer de la même manière qu'un petit garçon. Donc quand elle va distribuer les rôles dans la ville, le shérif, ça sera pas Woody, ça sera sa pote Jessie. Donc elle prend l'étoile de Woody, elle la met sur Jessie. Donc déjà premier truc, elle laisse Woody au fond du placard. On a le rôle des jouets perdus aussi qu'on va croiser dans le film. Et on a, c'était dans la bande-annonce, on voit Forky, fait Fourchette. En français, qui est doublé par Pierre Niney, je crois d'ailleurs, Fourchette, qui au départ est un déchet et qui va devoir accepter sa nouvelle condition de jouer. En fait, tous les personnages quasiment, voilà, mais Buzz, il fallait le caser, mais ça a été compliqué pour Buzz là, dans le scénario. Il n'est pas secondaire, mais il est carrément secondaire.
Au même titre que dans le troisième, enfin ça tu verras, t'inquiète pas, c'était pas spoilé dans les bandes, enfin c'était dans les bandes annonces. Dans le troisième, pareil, on sait pas trop quoi faire de Buzz, donc du coup, il le reset et il devient espagnol, quoi.
D'accord.
C'est très marrant.
Donc ça va tourner autour des personnages qui vont devoir chercher une nouvelle place, une nouvelle identité, même le méchant de service, la méchante de service, justement.
Et qui n'est pas si méchante au final.
Mais il n'y a pas de méchant dans Toy Story.
Il n'y a pas de méchant dans celui-là. Il n'y a pas de méchant.
Il y a les poupées creepy, à la rigueur.
Ouais, les poupées creepy, mais elles font peur parce qu'elles sont...
C'est des marionnettes.
Ouais, voilà, c'est parce que c'est des marionnettes et que c'est leur fonctionnement qui est comme ça, mais en réalité, elles sont gentilles, quoi.
Non, je pense que ça, c'est le thème principal de tout le quatrième, c'est le rapport à l'abandon et au fait de trouver sa place. C'est ce qu'ils ont voulu développer dans celui-là, clairement.
Et c'est ça qui était super intéressant, c'est que du coup, justement, le fait qu'il n'y ait que des personnages qui sont nobles au final dans leurs intentions. Et c'est ça, du coup, il n'y a pas de méchant. À chaque fois, on nous parle juste de divergence de point de vue. Et ça aussi, c'était super sympa.
L'histoire, quelle est-elle d'ailleurs? Nous sommes dans la chambre de Bonnie. Voilà, parce que maintenant, les jouets sont devenus les jouets de Bonnie. C'est son premier jour d'école. Elle se bricole un jouet, voilà. Grâce à Woody d'ailleurs, qui l'a un peu aidé, mais discrètement.
Comme il a pu.
Comme il a pu. Ce jouet, c'est Fourchette. Elle le ramène à la maison, c'est son nouveau jouet préféré, et il la rassure, elle dort avec, elle fait tout. Et comme Fourchette est fabriqué à propos de reste, il est persuadé que c'est un déchet, et donc il va tout faire pour retourner à la poubelle d'où il est tiré. Woody, lui, par contre, son leitmotiv, c'est tout faire pour le bien-être de l'enfant, donc il va tout faire pour que Fourchette prenne conscience de sa condition nouvelle de jouet et de jouet préféré. Après la journée d'adaptation, la famille décide de partir en vacances, à bord d'un camping-car, voilà, loué pour l'occasion. Bonnie prend ses jouets, dont Fourchette, qui va, à la première occasion, s'enfuir en se jetant par la fenêtre et s'abandonner au bord de la route, bien salement comme un déchet. Et Woody trouve ça horrible, quoi, parce que le jouet préféré qui disparaît, justement, ça va traumatiser Bonnie qui va chercher ce jouet partout, décide de se jeter lui aussi pour aller chercher Fourchette et le ramener. Après ça, il y aura plein de péripéties avec un magasin d'antiquités.
Des poupées creepy,
fait des marionnettes creepy. Ouais. Et ouais. Une fête foraine aussi avec des peluches racailles.
Rien, si vous avez moins de 10 ans, ces marionnettes vont hanter vos rêves.
Ouais, c'est des marionnettes qui étaient utilisées chez R.L. Stein en plus dans Chair de Poule et dans Dead Silence de James Wan. Du coup, moi, quand je l'ai vu au début, je pensais que c'était juste une référence. Après, ils les ont utilisées, donc j'ai fait « Ah merde, c'était pas juste, elle était là, faut qu'on se barre. Ah non, ils vont l'utiliser, ok. »
Et elles font bien flipper.
Elles font bien flipper.
Tous les effets sont réussis à chaque fois. Dès qu'ils tentent un truc, ça marche. On parle des poupées flippantes, elles ont vraiment fait bader. L'émotion, moi, on est sur la notion d'abandon, sur sa place à soi, sur la perte de quelqu'un qui va partir, quoi, sur le départ de quelqu'un. Moi, j'ai eu ma larme à chaque fois, voilà, j'ai chialé. Tout est réussi dans le truc. Même le doublage français, on pouvait avoir un peu peur. Il n'est pas parfait, mais il est réussi, il est bien utilisé. Les doubleurs sont bien utilisés dans leur rôle.
Parce que c'est des personnages déjà existants. Ce serait un film d'animation français. On sait qu'ils auraient calqué les personnages selon le doubleur et du coup ils auraient adapté pour que le doubleur puisse faire son show. Là au final, parce que là je pense surtout au duo, enfin l'oiseau-lapin qui sont attachés par la main, là, qui sont joués par Jamel Debbouze et Franck Gastambide, ça aurait été un dessin animé français. On aurait tout adapté pour qu'il n'y ait que eux à l'écran. Là au final, ils sont hyper utiles et du coup c'est bien utilisé parce que ils sont en retrait quand même, quoi. Donc ils sont utilisés quand il faut et les deux voix fonctionnent super bien. Et ça c'est plutôt cool. Voilà. Les choix de doublage sont finalement des choix pertinents. Voilà. En tout cas pour le doublage français.
Bah, ce serait centré sur les mêmes personnages. Le doublage de Jamel et Franck Gastambide, je suis partagé, on va dire. Des moments où ça passait très très bien, aucun souci. Et d'ailleurs, ils apportaient eux-mêmes quelque chose de neuf. Mais j'ai trouvé que c'était pas toujours fantastique et que... Alors là, ça n'a rien à voir avec eux. Hein, c'est du fait que la plupart des effets comiques de ces deux personnages sont avant tout visuels. Et donc le fait que ce soit doublé en particulier par eux n'apportait pas une dimension comique vraiment supplémentaire.
Après, il y a le côté racaille aussi, comme ce sont des mecs qui viennent des cités, qui en jouent d'ailleurs dans leur image, ça rajoute sur ces personnages-là.
À voir comment ils ont été écrits justement pour la VO, pour voir s'ils ont été écrits dans les mêmes canons de mecs un peu rebelles et compagnie, et voir ce que ça donne justement. Si c'est écrit dans le même truc, alors là c'est très pertinent, sinon ça aurait peut-être été un rajout qui est peut-être en trop, à voir.
On a aussi Angèle aussi qui double la poupée méchante. Enfin, la méchante. Tu sens que c'est pas son métier le doublage, ni le jeu, mais avec cette poupée-là justement qui est un peu timide, qui est un peu qui est très maîtrisée dans son expression, je trouve que ça passe. C'est bien exploité. Je pense que sur un autre film, dans un autre rôle ou quoi, ça ferait peur. Je pense que là ça passe bien. Après bon, les doubleurs classiques.
Buzz et Woody, ça colle. Mais en fait, faut pas se poser tant de questions sur les personnages déjà existants. Ils sont tous très bien. Même si, au final, sur les personnages qui font partie de la ludothèque, on les voit pas tant que ça. Donc, ils sont pas très exploités, ce qui est dommage. Surtout sur les patates. Moi, j'aimais bien les doubleurs des patates. Mais bon, après, pourquoi pas. Mais oui, non, il y a une petite panoplie de nouveaux personnages qui sont pas, du coup, excessivement nombreux. D'ailleurs, il y a des fois, il y en a un petit peu pas mal en arrière-plan. Il y a un passage où ils sont un square pour enfants. Donc là, on en voit plusieurs qui vont communiquer avec eux. Mais il reste très annexe. Mais sur les nouveaux, voilà, donc il y a le groupe d'oiseaux, il y a la petite nana de Polly Pocket là. Mais la bergère, on va clairement dire, enfin c'est pas un nouveau personnage, mais elle est tellement exploitée que là, elle est vraiment très présente, donc on peut considérer qu'elle fait partie des nouveaux arrivants. Et ils sont tous vraiment bien. Et surtout, vraiment, ce qu'ils ont fait avec la bergère, c'était juste génial. Justement, c'est le côté jouet qui a été abandonné, qui s'est retrouvé avec notre propriétaire, qui du coup a fini par la laisser aussi en grandissant, et qui a dit, ok, bon, moi je m'affranchis des enfants, je vais vivre ma vie toute seule, je vais aller vivre dans les squares pour gamins ou dans les endroits où il y a plein de gamins, comme ça il y en a plein de différents qui vont jouer avec moi de manière régulière et je vis ma vie, quoi. Et c'est super bien exploité, ce thème un peu libre.
Moi j'ai pas compris ça, moi j'ai compris qu'elle est partie à la boutique d'antiquité, et que pendant 2 ans elle a pris la poussière et qu'après elle s'est barrée.
Oui, non, il y a une grande partie de ça, mais à la base elle explique à un moment qu'elle a eu une autre enfant qui pareil a fini par la laisser en grandissant. Et il y a aussi le personnage du du motard canadien, quoi. Du coup, tu disais qu'il était doublé par Keanu Reeves dans la VO.
Je crois qu'il est doublé par Keanu Reeves dans la VO.
Je suis très curieux de voir ce que Keanu Reeves a donné, s'il a fait un gros accent ou pas, mais en tout cas, là, en VF, c'était super drôle, quoi.
Alors, moi, ça me fait un peu peur parce qu'il fait peut-être très bien l'accent canadien, mais alors l'accent anglais, c'était catastrophique, donc je...
Mais déjà, Keanu Reeves n'articule pas dans ses films, alors bon...
Oui, non, après, pour rejoindre...
Duke Kaboom.
C'est... Duke Kaboom.
Ouais, pour rejoindre ce qu'il disait, alors, le personnage de la bergère qui est super développé, qui est très intéressant, qui développe un point de vue qui est par raccord avec les canons de pensée, on va dire, dans leurs conditions de jouer. Et les personnages secondaires, comme à peu près dans tous les épisodes, je pense, remportent la palme et participent beaucoup au plaisir de visionnage. Le cascadeur québécois en tête.
Yeah. Non, ça c'est John Wick, ça, pardon. pardon.
Tu vois, quand on discutait pendant Nanny Black de Tessa Thompson et du côté il faut absolument prouver que les femmes savent faire les choses, faut le dire. Bah non, une fois de plus, hein, vous mettez des bons scénaristes qui vous le montrent et qui n'ont pas besoin de vous le dire. Là, la bergère, c'était aussi ce côté bah ouais, c'est une nana qui du coup va prendre Woody par la main et lui dire écoute, tu vas fermer ta grande gueule, tu vas te mettre derrière moi, tu vas me laisser faire parce que ce monde-là, je le connais et pas toi en fait. Et il n'y a pas eu besoin de dire, il n'y a pas un seul moment où il a fait ah, mais ouais, mais bon, attends quand même, j'ai besoin de mon image de cow-boy, ouais, mais moi, je suis une femme, laisse-moi passer devant. Non, ils l'ont pas fait, ils l'ont montré. Et ça colle, quoi. Et c'est ça qu'on vous demande de faire, scénariste.
Bah, il y a quand même le passage au début où la petite fille joue avec la co-girl, du coup, avec la cow-boy fille.
Ouais, mais pas tant que ça, parce que non, bah, parce qu'au final, enfin, c'est oui, non, il y a eu ça, mais je trouve
après,
que c'est
une petite fille qui joue, donc c'est tout, ça me paraît normal.
Quoi. Oui, mais bon, et encore, elle prend le chapelier, elle le met dans le rôle du boulanger, et fait la gueule. Je veux dire, pour moi, elle inverse juste tout le monde, et je pense que, enfin, à mon avis, parce que c'est ce qu'ils disaient même les gens entre eux, elle change à chaque fois, en fait. Elle les met tous dans des rôles différents, peut-être pas Jesse, parce qu'elle veut que ce soit le shérif, mais à chaque fois, elle les bouge tous de place, donc c'est juste que Woody commence à être de plus en plus abandonné. C'était plutôt ça le débat, on a vu plus que le côté ah, elle a remplacé le shérif garçon par un shérif fille. Je l'ai même pas vu comme ça, tu vois. Après bon, la preuve que du coup c'était suffisamment subtil pour qu'on le prenne pas comme ah tiens, ils vont encore en foutre partout.
Là c'était juste qu'il y a le passage de flambeau, il y a le passage d'étoile aussi. Mmh. Et en fait c'est surtout qu'on a été choqué par Emily Black où c'était vraiment lourdeau. Là, disons que ça fait partie du scénario, quoi. Ça fait partie du truc. Il y a pas de, on n'insiste pas, on le verbalise pas, quoi.
Alors, j'ai pas vu Men in Black, mais je pense.
Tu as bien fait.
mais je pense voir où vous voulez en venir, c'est que, bah, après, enfin, là, on rejoint littéralement la définition même du cinéma, en fait. Hein. Ne le dites pas, montrez-le. Faut que ces gars arrivent à intégrer que ça sert à rien de faire un build-up de fou si c'est pour ne rien montrer derrière. Autant ne pas faire de build-up et montrer les choses telles qu'elles sont.
Du coup, on sort Toy Story 4 du coffre à jouets.
On sort Toy Story 4 du coffre à jouets et on le met dans la belle collection à côté des trois autres. C'est fou de se dire que, bon, même si moi je me laisse un gros bémol sur le second, ben, les mecs ont quand même réussi à faire 4 films qui se tiennent bien et t'as envie de faire une petite tape dans le dos à DreamWorks et de leur dire, tu vois, voilà.
C'est comme ça qu'on fait.
C'est comme ça qu'on fait. La règle du 4 vient d'être, enfin la malédiction du 4 vient d'être anéantie par Pixar. Merci Pixar.
C'était Certain Les Machos. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci Julien de nous avoir rendu visite.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour nous soutenir, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et un nouveau film. Abonnez-vous pour l'écouter dès sa sortie. A très bientôt. Bisous, 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 bisous.
Bisous.
Je suis en train de voir que là-bas, il y a des barrières Playmobil le film.
Oui, il y a l'avant-première de Playmobil le film, là, tout de suite.
Vous en avez envie, là? Vous non. Êtes chaud, là?
Je suis carrément chaud.
Oh, putain, quelle horreur.
Non, moi, je vais vous laisser là.
Je crois que ça va être l'heure de la fuite. On aurait pu coupler les deux épisodes.
Coupler, ouais. Ah non. On part sur un truc émouvant, magnifique et tout. Et puis après, on fait bon, ben voilà, hein, on avait des étoiles dans les yeux, maintenant, de l'excrément.